Alors, on est donc dans la période des rameaux. Vous avez vu donc les embouteillages au ciel, au siège des églises, hein, où vous êtes passé en voiture. C'est toujours une fête, hein, qui est une fête qui est célébrée. Et je me demande toujours qu'est-ce que pour nous, qu'est-ce que cette fête peut nous apporter. Et le récit qui a été lu tout à l'heure, hein, sur ce récit dans l'évangile de Marc, des rameaux, donc Jésus qui arrive et sur un ânon et les gens qui se déshabillent, hein, qui mettent leurs vêtements sur la route ou qui vont chercher des branches, etc. Pour bien comprendre, je crois qu'il faut voir dans quel contexte ça se produit dans la parole de Dieu. Donc c'est dans Marc, Matthieu et Jean. Luc n'en parle pas. Et dans ces trois récits qui sont faits, le contexte est le même. Et je crois que le contexte est important pour comprendre l'esprit dans lequel les gens, à l'époque, ont participé à cette fête. Dans Matthieu et Marc, le contexte, ce qui s'est passé tout de suite avant ou dans les jours qui ont précédé ou tout de suite avant, c'est la guérison de Bartimée chez Marc. Et chez Matthieu, c'est la guérison de deux aveugles. Donc ça se passe tout de suite avant cet événement ici. Dans Jean, c'est quelque chose qui est différent. Dans l'évangile de Jean, c'est un événement extraordinaire, c'est la résurrection de Lazare. Et on voit que dans le défilé des gens qui se sont joints à cette manifestation pour l'entrée de Jésus à Jérusalem, Jean mentionne tous ceux qui avaient été témoins de la résurrection de Lazare. Ah oui, ce contexte, un contexte extraordinaire. Des aveugles qui recouvrent la vue, un homme qui était mort qui revient à la vie. Tout ça crée un contexte particulier qui pousse les gens à reconnaître en Jésus quelqu'un d'extraordinaire, qui est capable d'ouvrir les yeux des aveugles et qui est capable de ramener quelqu'un à la vie. Et lorsque Jésus arrive, eh bien les gens, dans un élan naturel, normal, l'honorent et le considèrent comme un roi finalement, parce que cette coutume de mettre des vêtements sur le chemin ou d'avoir des branches, et en particulier des branches de palmier. Le palmier, à l'époque de Jésus, c'est l'arbre national. C'est ce qui sert de ralliement à tous ceux qui veulent mettre les Romains dehors. Et même les responsables romains avaient autorisé les Juifs à battre monnaie avec une branche de palmier. Donc, il y avait là derrière tout ce qui s'était passé, les miracles passés, et puis ce Jésus qui vient, et on veut en faire un roi. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça peut bien pour nous dire aujourd'hui? Est-ce que nous serions, nous, dans cette position Aujourd'hui, comment accueillir Jésus? Alors, vous savez, aujourd'hui, on est aussi, parfois, on le constate dans certaines églises, par exemple, où finalement on est attiré par, on va dire, le sensationnel. Vous savez, ces églises où on guérit, ces églises à miracles, ces églises qui sont en général très grandes, et il y a aussi l'attrait du nombre qui fait que on se sent attiré. On se sent attiré. Et on se dit, c'est là que... Et on est prêt, on serait prêt, et si on ne le fait pas concrètement, on le fait en soi-même, ou quelquefois manifesté, mais on est prêt à mettre les branches de palmier sur la route. On dit nous tresser des couronnes, hein. Et on serait prêt à finalement rejoindre et se laisser tenter en disant c'est là que ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui je dirais presque un danger. Le danger du nombre, surtout. Ce matin, on n'est pas très nombreux. Vous savez que la règle de base, dans toute réunion, on se dit que si on veut être efficace, au-delà de 24, ça ne marche plus. D'accord ? Ça va plus. Parce que au-delà de 24, il va y en avoir qui seront sur le côté et auxquels on ne prêtera pas attention. Alors que dire lorsqu'on est 1000 ? Vous savez le nombre de disciples de Jésus, les 12. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce qu'on sait très bien qu'à 12, la communication passe très bien. On se connaît bien. On peut prier les uns pour les autres, aider. On est vraiment proches les uns des autres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se plaindre d'être peu nombreux. Je dis que c'est un privilège d'être peu nombreux et de ne pas céder au sensationnel. Je crois que c'est une notion qu'il faut que nous intégrions, cette notion-là. C'est un privilège de ne pas être nombreux. Vous savez qu'il y a cette parole, hein, qui dit « ne crains pas », vous connaissez après, « ne crains pas, petit troupeau, je prends soin, je suis là ». Je crois que c'est important. Et on voit ici dans ce récit des rameaux cette foule qui se rassemble. Et cette foule qu'on va retrouver la semaine prochaine. C'est la même. Celle qui crie « Hosanna », celle qui dit « Bienvenue à celui que le Seigneur envoie », etc. C'est celle qui, une semaine plus tard, quelques jours plus tard, criera à Pilate « Crucifie ». C'est la même foule. C'est les mêmes gens qui, dans l'enthousiasme, se sont portés au devant de Jésus et qui, après, vont se retourner contre Jésus. Tout ça parce que ce qu'ils avaient en vue, c'est ce côté un petit peu sensationnel, ce côté un petit peu émotionnel aussi. Je crois que c'est un attrait qui est compréhensible, hein. C'est compréhensible, mais je crois qu'il y a derrière tout ça un danger. Il y a derrière tout ça un danger. Et puis, aujourd'hui, c'est pas chez nous ça, mais on voit à l'extérieur. On voit à l'extérieur que il peut y avoir derrière aussi ces élans qui poussent les chrétiens, on va dire, aujourd'hui. C'est par exemple le côté politique où on se dit il faut, et on voit ça par exemple aujourd'hui aux États-Unis, où on voit par exemple les fondamentalistes du sud des États-Unis soutenir en masse un monsieur Trump. Vous sentez, c'est toujours cet enthousiasme-là, on se laisse embrigader, séduire, et je crois que c'est une séduction. Je crois qu'il faut être très, très prudent, avoir un esprit très éveillé, et puis se dire que... Vous connaissez cette histoire d'Élie, hein, qu'on rappelle toujours, hein. Élie qui voulait voir Dieu, hein. Et Dieu lui dit, ben, mets-toi là dans la grotte, hein, puis je vais passer, hein. Vous connaissez la suite, hein. Alors c'est le vent, c'est le feu, etc., qui passe, le tonnerre, etc. Et puis à un moment donné, Élie n'entend plus rien qu'un léger souffle. Et à ce moment-là, Élie comprend que c'est Dieu qui vient de passer. Je crois qu'il y a dans tout ça une grande leçon. Et Dieu ne se trouve pas dans le... Voilà, le brouhaha quelquefois. Mais il se trouve aussi dans le petit nombre, hein, et il se trouve pas forcément dans le miracle ou dans la manifestation extraordinaire, non. Il se trouve aussi là où, vous connaissez, deux ou
trois.
Deux ou trois, ça aussi, on l'oublie parfois. Et on soupire après, on est des petites communautés, et c'est vrai qu'on aimerait bien que tous les gens de Darnay viennent. C'est vrai. Mais bon, on se reconnaît que tout ça, c'est un petit peu... Mais bon, on ne sait pas non plus, hein. Oui, ne nous laissons pas trop attirer, hein, par le sensationnel. Hein. Et ne nous laissons pas, comme dit dans l'Épître aux Hébreux, ne quittons pas nos églises pour aller dans des églises où on va avoir des manifestations extraordinaires et où il va y avoir... voilà. Je suis tellement frappé ce matin, ça me frappe toujours quand je viens chez vous, c'est les musiciens. Je me dis, vous êtes combien? Et il y a ici, vous êtes quand même beaucoup de musiciens. Il n'y a pas besoin d'aller dans une église où il y a 1000 personnes pour avoir de la belle et bonne musique et un bel accompagnement. Jusqu'au djembé, non, c'est ça?
Un caron.
Oui, c'est quoi?
Un caron, mais bon.
J'apprends. Voilà. Non, mais c'est, voilà. Et je dis que c'est un grand privilège ce matin, quand on prie, par exemple, ce matin, qu'on prie pour les uns pour les autres, je trouve ça extraordinaire, une chaleur qu'il y a, qu'on n'a pas du tout dans le grand nombre. Je ne sais pas vous, mais moi, dans le grand nombre, je me sens isolé, complètement isolé. Alors, je cherche du regard quelqu'un que je connais. Voilà. Et quand j'ai découvert quelqu'un que je connais, voilà, je suis rassuré. Non, c'est un encouragement ce matin, je crois, que ce récit nous donne ce matin. Ne nous laissons pas aller au sensationnel et... Voilà. Et ça ne nous empêche pas de reconnaître en Jésus ce qu'ont pas fait ces gens-là. Hein. Ils n'ont pas reconnu en Jésus celui qui était annoncé. Celui qui était annoncé par les prophètes. Alors, vous savez, les Juifs étaient des gens de mémoire. Ils le sont encore aujourd'hui. Hein. On apprend par cœur, hein, depuis le berceau. Hein. On apprend. Et il y a des passages que les Juifs, eux, connaissaient par cœur. Hein. C'était le passage de Zacharie, au chapitre 9. Que je regarde ma référence. Au chapitre 9, verset 9. Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur une ânesse, le petit d'une ânesse. Il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem, il brisera les arcs de guerre, il établira la paix parmi les nations et il sera le maître d'une mer à l'autre et de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Ça, c'est un texte, entre autres, hein, que les Juifs se répétaient en boucle. Hein. Parce que pour eux, c'était le signe d'un renouveau. Et donc, quand Jésus arrive, monté sur un âne, on comprend que les gens l'ont acclamé. Alors, ce qui me frappe, puisqu'on parle de contexte, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que vous savez ce qui se passe après ? Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Le texte qui suit, hein, dans toutes les trois évangiles où on relate cet événement, Jésus se rend dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait dans le temple ? Ouais, ça vous rappelle ça, hein ? Un sacré coup de balai, hein ? D'accord ? Ça me frappe beaucoup. Jésus n'exploite pas la popularité. Jésus ne cherche pas à être, comment on pourrait dire, un gourou, on dirait aujourd'hui. Il ne cherche pas ça, il ne cherche pas la popularité. Ce que Jésus cherche, c'est, j'allais dire, notre cœur. Il se rend au temple. Et dans le temple, il va faire le ménage et il va dire, vous connaissez la phrase qui est célèbre, hein, cette maison, elle était prévue pour être une maison de prière, une maison où l'on a une relation avec Dieu, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et Jésus joint le geste à la parole. Hein, il prend les tables, il renverse tout ça, puis il sort et il va partir chez ses amis, donc à Béthanie. Ça aussi, dans ce contexte, c'est quelque chose d'extrêmement important, très important. Je peux accueillir Jésus, mais si, quand je l'accueille, je n'accepte pas que Jésus vienne chez moi, comme il l'a fait dans le temple, hein, nous sommes le temple hein, de Dieu, le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple. Si je n'accepte pas que Jésus entre, puis fasse un peu de ménage, je me dis toujours à moi, il y a beaucoup à faire, hein. Pour moi, je ne sais pas pour vous, hein. Mais il y a beaucoup à faire. Hein. Et ça, on voit que les gens qui ont acclamé Jésus lorsqu'il est arrivé n'ont pas compris ça. Eux, ils voyaient en Jésus un roi, quelqu'un qui allait chasser les Romains, faire merveille, organiser, prévoir, reconstituer, par exemple, le culte comme on l'avait autrefois, etc. Ils n'ont pas compris le message de Jésus, et pourtant c'est un message que Jésus répétait depuis longtemps. Il le répétait depuis longtemps. Alors c'est, pour nous ce matin, c'est un message qui est important. Alors ce premier message, c'est accueillir Jésus, c'est accepter qu'il entre dans notre temple, voilà, dans notre cœur, et qu'il fasse du nettoyage, et qu'il renverse certaines, on va dire, entre guillemets, idoles. Vous savez, idole, ça veut dire que Dieu n'est plus à sa place première, il est à sa place second. Et on a besoin de ça. On a besoin. Laissons entrer Jésus dans notre cœur pour qu'il nous aide à nous débarrasser de tout ce qui rompt notre relation avec Dieu, avec lui. Je crois que c'est important. Enlever, nettoyer, débarrasser. Et ce récit-là, je crois qu'il faut l'intégrer. Hein. On a accueilli Jésus, on l'a accueilli. Nous, on l'a accueilli sincèrement. Hein. Et acceptons que Jésus aille et pénètre dans notre cœur hein, pour faire du ménage ici. Et puis, je suis toujours frappé par le nombre d'impératifs qu'il y a dans la parole de Dieu. Vous savez, tous ces impératifs, hein, on vous en connaissez, hein, on parle toujours de persévérer. Il y en a d'autres, hein. On vient de voir tout de suite, veiller et prier. Veiller, c'est être sur ses gardes, faire attention. Ce matin, on lisait dans un feuillet ce matin, veiller parce que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Veiller. C'est important. Ensuite, deuxième chose, c'est presque toujours lié. Veiller et prier. Ah, c'est tout de suite le mot qui vient. Veiller et prier. Alors, prier, c'est... Là, on peut donner beaucoup de définitions à prier. Mais prier, c'est se mettre en contact avec Dieu. C'est ça, prier. Donc, veiller... Et prier, faire être vigilant et veiller à notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, on la cultive par la prière. On parle à Dieu, on l'a fait tout à l'heure ensemble, on parle à Dieu et c'est un moment important de notre vie, hein, de nourrir cette relation avec Dieu. Veillons et prions. Ensuite, Ensuite, il y a rejetons et débarrassons-nous. Rejeter. Alors, il y a différentes choses hein, qu'on peut rejeter. Les mauvaises choses. D'accord ? Ça, oui. On est d'accord. Il y a une autre chose, c'est rejeter nos fardeaux. Oui, il y a un chant qu'on ne chante plus trop, puisqu'il avait le début du jeûne éternel, là. Rejette ton fardeau sur l'éternel. Hein. Je pense que certains le connaissent quand même. Oui ? Rejetons nos fardeaux. Acceptons de confier ce qui nous charge et ce qui nous éloigne de Dieu, finalement. Les rejeter et les confier au Seigneur, de manière à ce que nous en soyons débarrassés. C'est simple à dire, non ? Oui, hein, c'est simple à dire. À faire, c'est autre chose. Hein. Faire, c'est autre chose. Mais je crois qu'il faut vraiment accepter que, oui, que Dieu mette le doigt sur ces fardeaux que nous continuons à porter comme ça, au lieu de les lui remettre, et quand nous les lui remettons, de se dire, Seigneur, je te l'ai remis, maintenant je te fais confiance. Parce que si je dis, Seigneur, je te confie ce fardeau, et puis que 5 minutes après, je me dis, il faudrait peut-être que je lui rappelle au Seigneur, parce qu'il est peut-être un peu sourd, hein, je vais lui redire, hein, prends soin de ça, hein, ou pardonne. Je crois que c'est, voilà, je crois qu'il faut laisser le Seigneur entrer en nous pour qu'il nous dise vraiment, fais-moi confiance. Tu m'as remis ça, je le porte à ta place. Ça va loin, hein, ça, ce désir de confier nos fardeaux au Seigneur. Et on en a tous, hein. On en a tous, et de se dire, voilà. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ça, c'est des fardeaux. Maintenant, on a nos besoins aussi. Et le Seigneur nous invite ici à lui exposer nos besoins. Alors, accueillir le Seigneur, lui présenter nos besoins, et puis, ce qu'on dit quelquefois, j'ai confié au Seigneur et je ne fais plus rien. J'aime beaucoup hein, cette expression qu'on dit, je m'attends au Seigneur. Voilà, j'attends, d'accord ? Et j'attends que le Seigneur fasse ce que je peux fort bien faire. C'est surtout quand ça coûte un peu, hein. Voilà. Et on s'attend au Seigneur. Oui. Mais aussi, nous avons tous à faire quelque chose. Et je crois qu'il faut être on a besoin de beaucoup de sagesse dans ce domaine-là. Et souvent on dit, vous connaissez cette formule, le Seigneur fait ce qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça que tout à l'heure je disais l'attrait des miracles, par exemple. J'ai été frappé dans nos rencontres avec différentes églises, de voir par exemple dans certaines églises des personnes qui dimanche après dimanche demandent à ce que l'église prie pour la même chose. dimanche après dimanche. Alors que je pensais, moi, c'était une chose qui aurait été facilement réglée entre deux personnes ou par la personne elle-même. Non ? On demandait au Seigneur. Je crois qu'il faut être aussi attentif à ça et laisser le Seigneur et ne pas nous laisser séduire par le fait de dire voilà, Dieu est tout puissant, il va tout faire, etc. Non. Non. Une autre expression, hein, nous sommes les mains de Dieu et nous sommes aussi responsables pour nous-mêmes. Ce que nous pouvons faire, faisons-le. Avec l'aide du Seigneur, on peut lui demander son aide. Mais je crois qu'il faut faire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Eh bien, il faut le confier au Seigneur. Alors, tout à l'heure, nous avons prié, par exemple, pour Sophie. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour Sophie, hein? À chaque fois que je reçois la lettre, hein, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour Sophie? Dites-moi. Rien. Si, je peux prier. Là, oui, d'accord. D'accord. Mais autrement, voilà. Peut-être lui avoir un petit message. Oui, ça je peux faire. D'accord. Vous voyez comment c'est le... Ne pas se laisser attirer par des choses qui ne sont pas non plus, qui ne sont pas comme Dieu le souhaite. Encore quelques petites choses qui sont à mon avis importantes quand Jésus entre dans nos cœurs. Il y a cet impératif qui est l'impératif d'aimer. Alors vous connaissez le commandement, le résumé de la loi de Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Je le dis souvent, je le répète souvent, comme c'est facile d'aimer Dieu, non pas vous. C'est vrai, c'est quand même facile d'aimer Dieu. Ben oui. Maintenant le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas si facile, hein. Ouais, c'est pas si facile. Je crois que là aussi, il faut laisser Dieu pénétrer dans notre cœur et puis prendre conscience de tout ça. On a chanté tout à l'heure dans notre Père, hein, pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que Dieu nous demande, hein. C'est ce que Dieu nous demande. Et vous savez que Jésus est très dur. Après, il dit que si tu ne pardonnes pas, ton Père céleste ne te pardonnera pas non plus. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire de notre Père quand on le récite, contrairement aux traductions qu'on a, c'est de dire pardonne-moi mes offenses comme j'ai pardonné. Parce que mon pardon est premier et le pardon de Dieu vient ensuite dans la relation. Vous voyez, toutes ces... Et Jésus, l'accueil que nous faisons de Jésus, il entraîne tout ça. Il entraîne tout ça, cet amour que nous avons pour Dieu, cet amour que nous avons les uns pour les autres. Aimer, agir, parler, dire, penser, tout ça, nous avons à le remettre devant Dieu et à laisser Dieu pénétrer en nous et être à l'origine de tout ça. Aimer. Comment je vais aimer Dieu? Comment Dieu veut que je l'aime? Comment Dieu veut que j'aime mon prochain? Comment Dieu veut que j'agisse? Comment Dieu veut que je parle? Et plus loin, comment Dieu veut que je pense? C'est très, très exigeant. Très exigeant. Et tout ça vient à la suite de l'accueil que nous faisons de Jésus. Ce n'est pas la peine de dire « Hosanna, gloire au Fils de Dieu », etc., etc., hein, si j'accepte pas que, voilà, comme Jésus est entré dans le temple après tous ces événements-là, que Dieu ou Jésus entre en nous et mette tout ça en valeur, hein, et nous aide aussi, hein, parce que, oui, Dieu donne ce qu'il ordonne, hein, et il est toujours prêt à nous aider dans ces domaines-là. Ça nous évitera peut-être un peu cette attitude-là, nous évitera un petit peu cette réflexion que j'entends souvent, hein. Si Dieu existe, vous savez, les gens qui se recommandent de Dieu, et puis arrive une tuile, quelque chose qui ne va pas comme ils veulent, et à ce moment-là, ils disent, si Dieu existe, ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Et ils entrent dans une période de doute. C'est l'attitude de ces gens-là, des rameaux. Cette attitude-là. Il y a eu l'enthousiasme. Sous l'enthousiasme, ils se sont lancés et ils ont pensé que humainement tout ça allait s'arranger. Et ils ont oublié de laisser Jésus entrer dans le temple chez eux pour les amener à avoir un comportement qui sera un comportement tel que Dieu le souhaite pour chacun de nous. Examinons toujours nos motivations, et puis je crois que nous avons à être reconnaissants pour ce que nous vivons. Par exemple, ce que nous vivons ce matin est important, et je crois que le Seigneur apprécie ce culte que nous lui rendons ce matin, un petit nombre, nous sommes peu nombreux, mais nous aimons Dieu, et parce que nous nous connaissons bien, nous nous aimons les uns les autres, et nous avons un comportement que Dieu approuve et apprécie. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui vont renier Dieu après. Et ce matin, avec Christian, nous pensions à ces personnes qui sont persécutées, qui acclament Dieu dans leur cœur, mais qui ne peuvent pas l'acclamer en réalité, ou s'ils le font, ils savent ce qu'ils risquent. Et ces gens-là, eux, ne vont pas crier « crucifie », hein, mais ces gens-là vont accepter de mourir en restant fidèles à leur foi et en mettant vraiment en laissant Dieu prendre toute la place dans leur cœur. Je ne sais pas ce que je ferais, je ne sais pas ce que nous ferions. Je ne sais pas. C'est pour ça aussi que nous avons à aimer ses frères et sœurs dans la détresse et que nous avons beaucoup à intercéder pour eux. Je crois que c'est très important. Alors ce matin, quand nous allons retourner, nous ne verrons pas puisque les buis auront été bénis hein, ce matin. Je vais dire, on se disait dans tous les villages où on est passé là, je me disais, qu'est-ce qu'il y a après ? Ça ne me dérange pas hein, de faire du deux. Ça ne me dérange pas. Hein. Je dis, qu'est-ce qu'il y a après ? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que ça va être l'acclamation aujourd'hui ? Avec les buis où tout le monde se retrouve, hein, on voit les gens sont contents, on a vu hein, des gens qui s'embrassent sur le trottoir avec les buis, etc. C'est vrai, c'est une fête. Qu'est-ce qui va rester ? C'est ça la question. Qu'est-ce qui va rester ? Et nous, ce qui nous reste, c'est ce récit et cette nécessité de laisser entrer Jésus ensuite dans notre cœur, hein, pour que nous puissions vivre comme il demande et être des disciples fidèles. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. On va prier ensemble. Seigneur, merci parce que nous savons, nous, que Jésus est celui qui devait venir et celui que tu avais annoncé au notre Dieu par les prophètes. Nous savons que nous avons accueilli Jésus dans notre cœur et nous avons accepté qu'il y fasse le ménage. Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon encore pour tout ce qui n'est pas de toi en nous. Et en même temps, nous te disons toute notre reconnaissance parce que nous allons nous rappeler pendant tous ces jours qui viennent du fait que Jésus a porté sur lui tout ce qui nous séparait de toi et qu'il nous en a débarrassé parce que sa mort a été acceptée par toi, ô notre Dieu, et que tu as accepté de t'effacer tout ce qui nous séparait de toi. Et ce matin, nous voulons te saluer, te dire Hosanna, viens à notre aide. Hosanna, oui, ô notre Dieu, nous accueillons Jésus ce matin et nous te demandons de nous aider à vivre comme il le demande dans les jours qui suivent et jusque à la fin de nos vies. Seigneur, nous pensons encore à nouveau à tous nos frères et sœurs dans le monde qui aujourd'hui aussi vont t'accueillir. Seigneur, sois avec chacun, en particulier dans tous ces pays aujourd'hui où te saluer, t'honorer, te prier est considéré comme un crime. Et nous te remettons tous nos frères et sœurs, pose ta bonne main sur chacun. Et puis nous, garde-nous dans ta bonne main. Aide-nous à ne pas nous laisser séduire, mais à toujours nous concentrer sur toi et accepter que tu nous corriges, que tu fasses le ménage en nous et que nous puissions respecter ces impératifs que tu nous donnes dans ta parole. Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous et tu nous as promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Et nous te remercions vraiment. Et nous savons que nous pouvons le faire à cause du Seigneur Jésus. Amen.
Amen.